Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, à propos de Kathleen, Lise Bissonnette se raconte dans un nouveau livre d'entretien et Bibliothèque publique à chacun sa dose de lecture. Bonne écoute!
À propos de Kathleen, un texte de Marc-André Lemieux paru le 23 janvier 2023 dans la presse. À propos d'Antoine, marque un moment charnière pour Kathleen Rouleau, une première série comme auteur et surtout un premier rôle principal comme actrice. On pourrait croire qu'après avoir mené un projet à bout de bras pour sortir d'une période difficile, l'humoriste voudrait profiter des projecteurs pour faire mousser sa carrière. Mais non. Après 10 minutes de conversation, elle lance même une phrase qu'on entend rarement en entrevue. « Je n'ai pas envie de parler de moi ». Kathleen Rouleau n'a pas envie de s'épancher parce qu'elle souhaite promouvoir le « message d'ouverture » d'À propos d'Antoine, une comédie dramatique semi-autobiographique qui relate le quotidien de Julie, une actrice qui tombe amoureuse de Marc, Claude Legault, un producteur de spectacle qui élève son fils lourdement handicapé. L'offrande du Club Illico est directement inspirée du parcours de Kathleen Rouleau, qui forme un couple avec l'homme d'affaires Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de l'agence Comédie A, et père d'Antoine, un adolescent polyhandicapé, autiste, déficient intellectuel, non-verbal et épileptique. La série de 10 épisodes montre comment la jeune femme gère son nouveau quotidien chaotique, presque entièrement articulé autour d'Antoine, qui joue son propre rôle à l'écran, et comment elle trouve sa place au sein d'une belle famille tissée-serrée composée d'un fils cadet hyper curieux, Édouard B. Larocque, d'une grand-mère TDAH de type verbomoteur, Micheline Bernard, de deux oncles aux antipodes, Sylvain Marcel et Hugues Frenette, et d'une ex-conjointe en tout point parfaite, Fanny Mallette. Je sais que c'est ma face qu'on voit, mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir, indique Kathleen Rouleau entre deux bouchées de salade. Je veux toucher les gens. Je veux qu'ils voient Antoine, qu'ils voient l'histoire d'une famille. Je veux qu'il soit chamboulé, renversé, ébranlé. Je veux qu'il soit transformé. Les gens handicapés existent, Colin. Il faut qu'on en parle davantage. Il faut qu'ils puissent vivre avec nous. Comme société, on n'est pas organisé pour soutenir les personnes vulnérables. Pas assez, du moins, dit Kathleen Rouleau. Élan brisé. Bien qu'elle préfère orienter la discussion vers Antoine, Kathleen Rouleau accepte de s'ouvrir, avec générosité, doit-on préciser, sur elle-même. À propos d'Antoine, l'évoque à quelques reprises par l'entremise du personnage de Julie au cours des premiers épisodes. Les choses n'ont pas toujours été faciles pour l'humoriste, surtout lorsqu'elle a quitté Montréal, et son copain de longue date pour Québec et Sylvain Parent-Bédard. Diplômée du cégep de Saint-Laurent en art dramatique, Kathleen Rouleau a joué dans une demi-douzaine de pubs télévisées, décroché des rôles dans quelques séries de fiction et obtenu des contrats de chroniqueuse et d'animatrice, mais l'élan qu'elle sentait depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2006 s'est brisé. Et tranquillement, le téléphone a cessé de sonner. Chaque année, je faisais le grand rire, les galas. Je faisais beaucoup de scènes à Montréal. Mais quand j'ai commencé à sortir avec Sylvain Parent-Bédard, tout s'est étrangement arrêté. Ça a été dur, tout ça. Kathleen Rouleau raconte s'être ensuite lentement détachée du milieu. Désillusionnée, mais déterminée à prendre en main sa destinée, la touche-à-tout a ensuite poursuivi, en 2018 et 2019, une formation en scénarisation durant laquelle elle s'est lancée dans l'écriture d'À propos d'Antoine après avoir jeté aux poubelles son précédent projet, une série intitulée « Le show must go on ». C'était sur moi et mes problèmes de carrière. Mais ce n'était pas important. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de matière. Et puis, on s'en fout de quelqu'un qui cherche à percer. La création d'À propos d'Antoine est venue plus naturellement. J'avais des histoires devant les yeux tous les jours. Des fois, c'est absurde, c'est drôle, c'est touchant. Il fallait que j'en parle. Kathleen Rouleau insiste. Elle n'éprouve aucune amertume envers l'industrie de l'humour. Le regard qu'elle y pose est seulement moins innocent qu'avant. « Je suis arrivé en humour avec beaucoup de naïveté », avoue-t-elle. « J'étais très « tout le monde est beau, tout le monde est gentil ». Et effectivement, l'humour, c'est une belle grande famille, mais c'est aussi une belle grande famille affamée. On a tous besoin de manger, de vivre, mais on est vite oublié. Les choses vont vite, vite, vite. Aussitôt qu'on disparaît un tout petit peu, quelqu'un d'autre prend notre place. Je n'avais plus envie de jouer cette game de réseaux sociaux, de vidéos. Je n'avais pas envie de plonger dans l'arène pour dire « Regardez-moi, regardez-moi », poursuit-elle. Je voulais travailler, mais je n'avais pas envie de faire n'importe quoi sur l'Internet pour qu'on me remarque et qu'en fin de compte, quelqu'un m'engage. Je voulais masser mon projet, le tricoter, le peaufiner. Je voulais bâtir quelque chose. Le vrai du faux. Kathleen Rouleau peine encore à croire qu'À propos d'Antoine est rallié d'aussi grosses pointures, du réalisateur Pods, 19-2, Mafia Inc., au comédien. Elle nomme également son script-éditeur, Benoît Pelletier, duquel émanerait la sensibilité du feuilleton. Ce sont des Formule 1. Quand tu n'es personne et que tu vois tous ces gens se mobiliser autour de ton projet, tu fais « wow ». Pour conserver une part de mystère, Kathleen Rouleau refuse de décortiquer chaque scène d'À propos d'Antoine en séparant le vrai du faux. Elle révèle toutefois qu'un employé au guichet d'une foire de Québec a réellement refoulé sa famille pendant 30 minutes parce qu'il refusait de consentir au fait qu'Antoine était vraiment handicapé sans pouvoir consulter de papiers officiels. Ils ont fini par nous laisser entrer en disant « C'est bon pour aujourd'hui, mais la prochaine fois. » Et Sylvain a répondu, « Il n'y en aura pas de prochaine fois. » Et comme Julie avec Marc, au premier épisode, Kathleen Rouleau n'avait aucune idée qui était Sylvain Parent-Bédard la première fois qu'elle l'a rencontré. « J'étais dans une fête d'après-gala au Grand Rire de Québec. Il s'assoit à côté de moi. On parle du spectacle, d'humour. » Après une heure et demie de conversation, je demande « Tu fais quoi au juste dans le festival ?» Et il répond « Le festival m'appartient. » La première saison d'À propos d'Antoine est offerte sur Club Illico. C'était « À propos de Kathleen », un texte de Marc-André Lemieux, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Sonnette se raconte dans un nouveau livre d'entretien. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 janvier 2023 dans Le Devoir. Dans des entretiens parus en librairie, l'ancienne directrice du Devoir, Lise Bissonnette, montre qu'elle n'a rien perdu de sa passion du présent, même lorsqu'il s'agit de relater son passé. J'ai toujours refusé de raconter ma vie, explique-t-elle d'entrée de jeu. Il n'était pas question de me lancer là-dedans. Ce projet d'entretien m'était complètement étranger. Il est dû entièrement à une idée de l'historienne Pascal Ryan. Dans les pages riches qui en résultent, Lise Bissonnette s'explique et se raconte. Elle ne cache pas son désarroi devant l'abandon progressif d'une certaine idée du Québec qui lui reste chère. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec recrée l'État-providence, mais pour les entreprises, observe-t-elle en s'en attristant. Voilà qui lui apparaît bien loin des lumières d'un horizon qu'elle a espéré plus brillant, plus conséquent. Ce n'est pas très stimulant, laisse-t-elle tomber. On comprendra que je sois attaché à l'immense rupture qu'a été la Révolution tranquille et que je me désole de la trouver souvent niée. Mais je suis troublé tout autant par le fait qu'elle est inachevée, laissée en plan. À son sens, les universités publiques, BINQ et le Parc olympique, trois institutions auxquelles elle a été liée, constituent des promesses inachevées. Je pourrais aussi évoquer le musée d'art contemporain, dit-elle. Du côté de l'éducation, il fallait faire plus pour le réseau des universités, souligne-t-elle. L'Université du Québec, un réseau d'universités publiques présentes dans l'ensemble du territoire, aurait pu faire lever la scolarisation au Québec, assumer un leadership puissant si on lui avait donné les moyens de respecter sa mission première au lieu de l'instrumentaliser comme un simple ajout à un système qu'on a refusé de repenser, écrit Lise Bissonnette. Le sort fait à BINQ, une des rares institutions publiques créées ces dernières décennies, la préoccupe aussi vivement. « Cela commence à s'effriter, dit-elle. Si la gratuité d'accès n'avait pas été inscrite dans la loi, ellipse, les gardiens du Trésor auraient réussi à tarifer les abonnements. Pour réduire les budgets d'une institution aimée par le public, on procède avec plus de discrétion. » On met fin à des services spécialisés moins connus, aux expositions, à des programmes de recherche, à la disponibilité de ressources patrimoniales, et on confie des missions en sous-traitance. Pour elle, cette institution ne peut se réduire à un simple organisme de service renonçant à rayonner comme il le devrait. Au contraire, il conviendrait plus que jamais de le faire croître, comme le grand carrefour de recherche et d'éducation qu'il entendait être au bénéfice de tous. Un champ d'action. Les habitués du devoir se souviennent de ces éditoriaux. Certains ont marqué l'histoire comme un fer chaud. Le devoir était à mes yeux un lieu ultime, tout comme l'université, affirme celle qui l'a dirigée de 1990 à 1998. Lise Bissonnette rappelle d'ailleurs dans ses entretiens toniques les exigences d'un métier qu'elle a aimé. Sous sa direction, le devoir s'affirme comme souverainiste. Cette option politique émerge en toute logique de l'analyse conséquente des tenants et des aboutissants de la réalité québécoise à l'heure venue de sa modernité. Cet élan n'avait rien d'identitaire, écrit-elle. Nous nous faisions fort de n'entretenir aucune sympathie pour les thèses de l'historien Lionel Groulx ou de l'économiste François-Albert Anger, dont la proximité avec l'Église nous rebutait particulièrement. Le fleur de lysée ne nous émouvait guère. En quelque sorte, la raison imposait d'elle-même un vrai tournant. Le devoir était à mes yeux un lieu ultime, tout comme l'université. Elle tranche à vif une ambiguïté historique où l'un de ses prédécesseurs, Claude Ryan, s'était laissé enserrer jusqu'à l'en étouffer, constate-t-elle. Le retour du statu quo aujourd'hui, c'est-à-dire ce cul-de-sac dans lequel Claude Ryan s'est retrouvé coincé comme d'autres, explique Lise Bissonnette, conduit à valoriser sur la place publique des repères historiques qui nous confortent dans cet immobilisme débilitant. Ce n'est pas pour rien que la vision autonomiste de Duplessis est soudain valorisée, qu'on cherche à racheter à nos yeux cette triste période. Désormais, la question consiste à se demander tout au plus si la position de Duplessis était suffisamment autonomiste ou pas. selon une grille d'analyse étroite, essentiellement économique, rien de plus. Et c'est dans ce cadre que M. Legault propose, comme principal projet pour le Québec, de rattraper l'Ontario. Ce n'est pas très stimulant non plus. La grande noirceur symbolisée par Duplessis, Lise Bissonnette s'y attarde. À bien y regarder, tendons-nous à penser aujourd'hui, la noirceur n'était pas si tragique. Des pionniers y résistaient, égratignaient ou même brisaient les cadres. Oui, ils ont existé. Mais ce n'est pas parce qu'un mur laisse passer une bribe de soleil par une brèche qu'on peut en tirer une conclusion sur le beau temps. Jusqu'à la Révolution tranquille, les lueurs ont été des brèches et elles ont pris une place réconfortante dans notre lecture du passé. Cette époque souffrait du vide où tournait la majorité des vies d'ici. La grande noirceur, avance-t-elle, était avant tout une forme de blancheur, prenant la teinte blême de l'ignorance. Elle revient sur Rouen, la capitale d'une enfance passée en Abitibi. Encore aujourd'hui, elle déplore le vide culturel qu'elle a connu enfant, même si elle avait pour les choses de l'esprit un grand appétit. Ce début d'intérêt naturel pour des savoirs moins niais a mis bien du temps à se muer en volonté active d'accéder à des contenus exigeants. L'environnement ne s'y prêtait tout simplement pas. J'ai ainsi perdu des années d'un développement intellectuel que j'ai passé ma vie à vouloir rattraper. L'essentiel de mon initiation intellectuelle à l'époque est lié au Quartier latin, le journal étudiant de l'Université de Montréal. C'est là que j'ai découvert la culture contemporaine qui m'avait jusque-là échappé. À plusieurs reprises, elle vante dans ses entretiens l'importance de cette école unique que constitue la presse étudiante. Le journal étudiant m'a sauvé de la médiocrité des programmes d'études. Va-t-elle jusqu'à avancer? Tout en valorisant un souci d'objectivité dans la pratique de son métier, elle n'a jamais cessé d'affirmer qu'une écriture personnelle est un ingrédient du journalisme de qualité. Lise Bissonnette a publié des romans, des nouvelles, des essais. Je n'appartiens à aucune école littéraire, dit celle qui deviendra la première présidente directrice générale de la Grande Bibliothèque du Québec. L'écriture est pour moi une ligne principale de vie. Depuis mes premières petites compositions scolaires jusqu'à ma thèse de doctorat en lettres de langue française, en passant par le journalisme et la fiction, tout n'est que la déclinaison en continu d'un rapport à cette forme essentielle d'expression, magnifique présent que m'a offert la lecture. Dans ces entretiens se trouvent plusieurs pages fortes consacrées à la littérature, sur la façon dont même ce monde est désormais investi par des procédés commerciaux contre lesquels elle s'inscrit en faux. En 2009, lors de son discours de réception du prix Fleury-Méplet, remis en marge du Salon du Livre de Montréal, elle était allée jusqu'à dire que l'expression de l'amour inconditionnel entre son compagnon et elle s'était manifesté au suprême degré au jour où les deux avaient convenu de fusionner leur bibliothèque. Godefroy M. Cardinal, l'homme de sa vie, à qui d'ailleurs ce livre d'entretien est dédié, vient de mourir. Lise Bissonnette en est inconsolable, mais sa vie privée est ici tout à fait mise de côté. Elle évite à dessein l'écueil des états d'âme personnels. Je m'occupe de mon chien, qui reste un être difficile, pour m'aider à passer au travers, se contente-t-elle de me dire. Dans les pages vives et stimulantes de ce livre, toute la place ou presque est impartie aux idées de Lise Bissonnette, entrelacées finement avec la trajectoire de sa vie publique. J'en ai connu, du contentement au travail ou à l'étude, plus que ma part. Seul dans mes bureaux au quotidien ou aux jours fastes qui jalonnent la vie des institutions, le meilleur demeure celui d'une bibliothèque à la maison, un livre en main et un chien endormi à mes pieds. C'était Lise Bissonnette se raconte dans un nouveau livre d'entretien, un texte de Jean-François Nadeau paru le 23 janvier 2023 dans Le Devoir.
Bibliothèque publique, à chacun sa dose de lecture. Un texte de Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ, paru le 26 janvier 2023 dans La Presse. Pour s'endormir en douceur, les enfants réclament souvent leur livre préféré. Même si ça peut parfois paraître lassant de relire sans cesse le même livre, le parent ne peut qu'être encouragé de répéter l'expérience, sachant tous les bienfaits de ce moment partagé avec son enfant. En effet, chacune de ces interactions favorise l'émergence de l'alphabétisation, cette compétence fondamentale qui se déploie à travers la lecture, la compréhension des textes, et l'écriture. En gros, lire éduque. L'acte en soi, pourtant, va bien au-delà de ça. Il renforce les compétences mêmes de l'enfant, favorise sa réussite scolaire, transforme le babillage en mots, et chaque interaction liée à la lecture, comme parler et chanter, renforce des apprentissages socio-affectifs et cognitifs essentiels selon la Société canadienne de pédiatrie. Ces livres, recommandés par du personnel qualifié, empruntés gratuitement à la bibliothèque et relus à satiété, possèdent des vertus à la fois pour le tout-petit et pour le parent. Et oui, lui aussi renforce ses compétences en littératie et développe, par le fait même, une capacité de compréhension croissante. Au Québec, une récente étude conduite par la Fondation pour l'alphabétisation conclut à l'urgence de renforcer les efforts afin d'améliorer ses compétences en littératie. Bien que le pourcentage de la population québécoise âgée de plus de 15 ans qui n'atteignait pas le niveau 3 de littératie établi par le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, PEICA, ait progressé depuis 2011, il se situait quand même à 51,6% en 2021. Rappelons que le niveau 3 en littératie correspond notamment à la capacité de comprendre des textes longs et denses, d'en interpréter correctement le sens, ou d'effectuer des liens adéquats entre les idées qu'il contient. Les bibliothèques à la rescousse. Affectées par la pandémie comme toutes les institutions culturelles, les bibliothèques considèrent avoir renoué avec environ 80% de leurs usagères et usagers. Or, plusieurs bénéficieraient d'y retourner ou de tout simplement les fréquenter plus régulièrement, les bibliothèques publiques étant des leviers incontournables pour lutter contre l'analphabétisme et améliorer le niveau de littératie de toute la population. Selon l'Observatoire des tout-petits, seulement 19% des élèves de la maternelle avaient appris, dans l'année précédant leur entrée à l'école, à réciter ou à reconnaître l'alphabet avec leurs parents. Les multiples services de la bibliothèque publique, pensons aux heures du conte, aux ateliers d'éveil à la lecture et à l'écrit, ou tout simplement le prêt d'abécédaire adapté à la petite enfance, peuvent soutenir cet apprentissage. À travers le programme gouvernemental Agir tôt, qui s'adresse aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leurs familles, les professionnels de la santé, tels les orthophonistes, les orthopédagogues, les pédiatres, les médecins de famille et les infirmières ont en commun de veiller au développement de l'enfant et d'aider à identifier les risques précurseurs de difficultés de lecture ou de langage afin de l'orienter vers les bons services. Essentiel à titre de service complémentaire, les bibliothèques publiques permettent à ces spécialistes de se référer aux ressources pour les familles, notamment les programmes Une naissance, un livre, Bibliojeu et le Trouve-livre. De nombreuses études ont démontré que les parents jouent un rôle crucial dans l'éveil à la lecture et à l'écriture. Le simple fait de feuilleter un livre d'images ou de chanter une chanson ensemble contribuera à diminuer la probabilité que le tout-petit soit vulnérable à la maternelle. Afin de renverser la tendance nationale, nous invitons les professionnels de la santé à prescrire une dose de bibliothèque publique à toutes les familles québécoises. Leur rôle en littératie familiale est établi et elles sont prêtes à renouer avec l'ensemble des citoyennes et des citoyens, des tout-petits aux plus grands, pour offrir toute une panoplie de services essentiels. C'était Bibliothèque publique, à chacun sa dose de lecture, un texte de Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ, paru le 26 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.